Pierre, avant d'être un collègue pasteur, c'est surtout un ami. Et j'aimerais vous dire quelques mots pour vous le présenter, pour qu'on mesure le privilège d'avoir Jean-Pierre avec nous. D'abord, parce que c'est un homme d'expérience qui a bientôt 80 ans, on ne dirait pas, hein, mais il est toujours plein d'amour, amoureux de son Seigneur. Et quand on partage encore ce matin un petit déjeuner ou hier soir, on a un plaisir fou à refaire le monde, à refaire la terre, à parler des sujets. Et ce que j'apprécie peut-être le plus en lui, après son enthousiasme, c'est son côté. On peut discuter de tous les sujets et il n'a pas toutes les réponses. Il est comme moi, il se pose des questions, il ne sait pas toutes les choses, comment ça va aller. Et j'aime vraiment ce cœur à la fois brûlant, parce qu'autrement on peut être dans une sorte de relativisme, vous savez, on ne sait rien, on n'est pas du tout. Il est brûlant pour le Seigneur, mais en même temps il n'est pas dans des réponses dogmatiques, affirmées, etc. Il cherche, il chemine, il dit bah, je pensais comme ça, puis après j'ai évolué, etc. Puis deuxième chose qui est super, on a travaillé dans une équipe qui s'appelle l'équipe, pour certains vous la connaissez, Prière et Discernement. C'est une équipe qui travaille encore d'ailleurs, moi j'en suis plus, mais c'est une équipe qui se rencontre encore, où il y a plusieurs personnes que beaucoup d'entre vous connaissent, comme Maurice Ray, comme Philippe Descorvet, comme Jean-Marc Bigler dans la délivrance, etc. Et cette équipe, moi j'ai participé peut-être 15 ans, mais je ne sais pas combien, Tom Bloomer, de Jem, je ne sais pas pendant combien, elle a été créée, en quelle année, 74, quelque chose comme ça?
Oui, à peu près. Hein? Ouais. Donc, 76, je crois.
76, voilà. Donc, vous voyez, une équipe de gens qui étaient des réformés, des évangéliques, des pentecôtistes, toutes sortes de ministères, et qui, au départ, par exemple, avaient entre Jean-Marc Bigler, très axé sur la délivrance, j'allais presque dire à tout craint, et puis des Michel Renevier, ou des Philippe Descorvet, ou des Guy Chautant, pasteurs de la cathédrale de Lausanne, il y avait vraiment des différences, et c'était une profonde amitié qui réunissait cette équipe, et on s'est retrouvés pendant des années, des années, des années, une soirée et le lendemain. On restait en place pour une nuit ensemble, on partageait, on priait, on échangeait, c'était vraiment une équipe très, très, très précieuse, et dont Jean-Pierre fait partie encore aujourd'hui. Donc c'est une expérience, c'est pour ça que je souhaitais que cet après-midi au café, on aura encore un temps d'échange, vous pouvez poser vos questions, et profiter de préparer des questions. Vous savez, des fois on aimerait interroger le Seigneur, alors ce n'est pas le Seigneur, mais quelqu'un qui a un long parcours avec le Seigneur, qui est un théologien aussi, qui est un charismatique, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et donc, si vous avez des questions existentielles dans votre foi, osez les poser, préparez cet après-midi. Et puis je vais prier maintenant pour Jean-Pierre qui va nous partager un message. Seigneur, merci pour Jean-Pierre, bénis-le avec Suzanne, son épouse, et tout son ministère encore qu'il fait. Seigneur, merci pour le privilège de t'écouter au travers de lui ce matin. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs et que ton Église ici soit fortifiée par ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Est-ce que éventuellement je pourrais avoir un micro mobile aussi parce que j'ai tendance à bouger des fois un peu.
Un verre d'eau aussi.
Parce que vous enregistrez, je pense.
Un verre d'eau aussi.
Ouais, ça va. Ouais, éventuellement, mais je supporte assez bien. Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très content de me retrouver en France parce que ah oui, il est là. Merci beaucoup. Enfin, je peux prendre celui-là aussi, c'est tant que je reste là, mais si je bouge. Parce que, voilà, j'ai été. Enfin, je suis marié, j'ai deux filles, et puis pas un fils vietnamien, mais un fils d'accueil, Boat People, qui était venu chez nous pendant 13 ans, et quelques petits-enfants aussi. Je disais que j'aime bien me retrouver en France, il y a longtemps que je n'étais pas revenu dans cette région, j'étais venu il y a bien des années, dans le cadre des églises un peu de la même région, quoi, plus centré peut-être sur Morée, etc. Mais j'ai été moi-même pasteur dans les 15 premières années de mon ministère en France, une année à Paris. À l'époque, j'étais dans l'Église réformée de France. J'ai fait la filière assez normale, enfin, comme on fait quand on veut être pasteur dans cette église. Et puis encore 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, chez les mineurs, chez les ch'tis, comme on dit aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. C'est là que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est là que j'ai découvert le monde ouvrier, le prolétariat ouvrier. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis je suis revenu ensuite en Suisse, où j'ai été pasteur pendant 4 ans à Lausanne, dans une église aussi. Et puis, après ça, je suis entré à la Ligue pour lecture de la Bible, pour la Suisse romande. Et là, je me suis mis à devenir itinérant dans toute la Suisse romande et au-delà, parfois. Et puis, pour les jeunes surtout d'abord, puis ensuite pour les adultes, les confamilles, toutes sortes de séminaires dans des églises et tout ça.
J'ai, à un moment donné, j'ai rejoint une église charismatique, pentecôtiste, un peu comme la vôtre, qui est l'église Lazare à Bussigny, parce que j'étais au fond un évangélique qui s'ignorait pas tout à fait, mais qui s'ignorait en partie. Et ça correspondait beaucoup mieux à mes convictions. J'avais un peu de peine à rester dans ce climat d'église telles qu'elles sont. J'ai pas renié l'église réformée, mais il y a des choses que je pouvais plus supporter. Enfin bref, et puis peu à peu, on a fondé un travail parmi les requérants d'asile qui venaient d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, pour les accueillir, pour évangéliser. Beaucoup étaient musulmans, la moitié des gens qui venaient étaient des musulmans. Et j'ai appris à connaître d'autres horizons, et j'ai commencé à aller en Afrique aussi assez souvent. J'ai fait, je pense, une trentaine de voyages en Afrique francophone surtout. Enfin bref, je ne vais pas en dire plus, c'est juste pour me situer. Alors, on va prendre un passage qui est situé dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 1 à 17. Merci beaucoup. Il s'agit d'Élisée. Je l'ai intitulé « L'Église des derniers temps et l'appel des nouveaux Élysées ». Alors je lis.
Éventuellement, si vous avez, vous pouvez projeter le texte, mais enfin, je vais le lire.
Ah, il y est. Ah oui, d'accord. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, c'est-à-dire une veuve de ces écoles de prophètes, comme il y avait au temps d'Élie et d'Élisée, ils avaient des sortes d'écoles prophétiques. Ils faisaient des sortes de confréries, comme ça, mobiles, qui vivaient un peu par la foi, qui étaient pauvres en général. Et cette femme-là cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort !» Ce qui veut dire plus de sécurité sociale. Terminé. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Comme c'était possible en ce temps-là, c'était légal. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un vase d'huile. Et il dit, alors va demander au dehors des vases, des récipients chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, donc à partir de l'huile que tu as déjà maintenant, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et sur ses enfants, et il lui présentait des vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Eh bien, va vendre l'huile et paye ta dette. » Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Et puis un autre récit qui suit immédiatement. Un jour, Élisée est passé par Sunem, qui est un petit peu du côté du Mont Carmel, comme ça. Il y avait là une femme de distinction, ça veut dire une femme de la haute, on dirait aujourd'hui, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait par là, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Eh bien, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y un lit avec une table et un siège et un chandelier, une lampe si vous voulez, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous, un peu comme chez la sœur qui nous a reçus cette nuit, plusieurs d'entre nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui, devant, probablement plutôt devant Géasi que devant Élisée. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, j'ai pas de problème, tout va bien, ma situation est bonne. Et il dit, que faire pour elle ? Géasi répondit, mais elle n'a pas d'enfant, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, etc. C'est pas fini, les difficultés sont pas terminées parce que
il va mourir.
Et Élisée va devoir reprendre un ministère à l'égard de cette famille. Et cet enfant sera ramené à la vie. Voilà. Évidemment, quand on lit des récits comme ça, surtout dans ce qu'on pourrait appeler le cycle d'Élie et d'Élisée, ces deux prophètes, l'un a succédé à l'autre, on est un peu émerveillé, on se dit, mais oh, c'est extraordinaire. C'était, il y avait des miracles. Pour Élisée, on en dénombre 12, il y a 12 miracles raconté dans le deuxième livre des rois. Et puis pour Élie, il y en a un peu moins, mais il a un ministère, alors lui, par rapport au pouvoir politique, un ministère de confrontation spirituelle de grande envergure, extraordinaire. Et on se dit, mais pourquoi il n'y a plus ça ? Comment ça pourrait revenir ? Est-ce que ça nous concerne ? Ou bien on est juste là devant des récits, ben oui, qui nous émerveillent, mais qui nous laisse un petit peu pantois, comme ça, un peu passif, en disant, ben, c'était bien, c'était en ce temps-là. Vous savez bien que la Bible, c'est un livre prophétique d'un bout à l'autre. Et si les histoires qui sont racontées là, c'est pas juste pour faire joli dans l'histoire passée, c'est pour que nous puissions nous approprier ce qui est dit là. Et que dans l'Église d'aujourd'hui, il devrait en être de même, et même peut-être encore plus qu'en ce temps-là. Et je vais essayer de débrouiller cette énigme, si vous voulez. Moi-même, je ne fais pas le malin, parce que je crois vraiment ce que je vous prêche là, j'y crois totalement, mais les résultats ne sont pas toujours aussi extraordinaires qu'on le voudrait, je vous l'avoue. Mais il nous faut être en marche, parce qu'il y a des promesses qui sont réelles. Et puis alors, on n'est pas juste dans l'Église, voyez, ces récits, si vous regardez, ça part de la maison des veuves jusqu'au chef de l'État. Ça va de la rue et des confréries de prophètes jusqu'à des confrontations avec des gens importants, avec des gens de la haute société. On n'est pas juste un petit groupe un peu sectaire replié dans des locaux. C'est le contact avec le dehors. Il y a une puissance de Dieu. Et moi, j'aime bien cette phrase que Élisée a dit à propos de Naaman, le Syrien, où le roi le dit, mais tu viens me voir, tu viens me voir pour la guérison. Est-ce que je suis Dieu, moi ? Je peux faire quelque chose, je peux rien faire. Et puis Élisée lui fait dire, dis-lui qu'il vienne chez moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il n'y a pas rien, il y a la présence de Dieu est là, mais il faudrait qu'il y ait plus qu'un prophète. Hein. Et Moïse, il disait, puissent-ils tous être prophète. Il n'était pas jaloux en disant, je vais garder le ministère pour moi, ou pour les 70 anciens, c'est tout, on va faire une caste de gens supérieurs. Non, il désirait que tous les membres du peuple de Dieu, c'était trop tôt, c'était pas encore le temps, mais depuis Jésus, c'est le temps, où tous les membres du peuple de Dieu peuvent entrer dans cette dimension apostolique, prophétique, messianique. Moi, je dirais messianique. Le Seigneur voudrait faire de nous des messianiques. Alors, d'où vient cette capacité qui était celle d'Élisée, qui montre que Dieu règne ? Oui, il règne, dans l'amour. Alors, le monde contredit ça, le monde est plein de noirceur, c'est plein de corruption, c'est plein de turpitude, de mensonges et même de violence. Quand on regarde ce qui se passe au Proche-Orient, c'est plein de violence, mais aussi parfois au Mexique ou un peu moins chez nous, mais de choses par-dessous qui ne sont pas belles. Et pourtant, Dieu règne. Nous, c'est notre message, c'est pas seulement Dieu sauve, oui, c'est Dieu sauve, il commence par nous sauver, c'est incontournable, mais aussi il règne. Il faudrait pas oublier que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est pas seulement la bonne nouvelle du salut, c'est aussi la bonne nouvelle du royaume, du Dieu qui règne dans l'amour, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que ça dure un peu longtemps, c'est parce que jusqu'à ce qu'on soit sensible à cet amour et qu'on en soit transformé, il faut du temps. Alors, je voudrais dégager trois leçons, si vous voulez, qu'on peut tirer de ce récit qu'on a lu tout à l'heure. La première source, c'est que c'est ce que proclame à la fois Élie et Élisée quand il se présente à des gens qui ne le connaissent pas. Si vous regardez Élie, qui était un illustre inconnu, comment est-ce qu'il se présente dans 1 roi 17 quand il dit « Je suis, non, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. » Dans nos traductions, c'est souvent « dont je suis le serviteur », mais ce n'est pas une traduction excellente. Littéralement, « le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Ça, c'est beaucoup plus fort. Le Dieu d'Israël, que beaucoup d'Israélites laissaient de côté, devant qui je me tiens. On savait qu'une chose d'Élie, on savait qu'il était du village de Tishba en Galade, c'est tout. Rien de plus. On ne connaît rien sur son passé. On ne sait pas quelle était son activité professionnelle. On ne sait pas comment il a connu le Seigneur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut dire, après un certain nombre d'années, probablement, parce qu'il a fallu certainement des années d'intimité avec le Seigneur dans le secret, alors que personne ne faisait attention à lui, il peut dire « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Et Élisée dit la même chose. Hein, on le voit, par exemple, il le dit un peu avant, quand il a une victoire sur les Moabites, il dit « L'Éternel, le Dieu des armées, devant qui je me tiens est vivant. » Il répète la même formule, parce que c'est vrai. Et je crois que ça, c'est la première clé. Le Seigneur voudrait que nous soyons, les uns et les autres, des gens qui se tiennent tous les jours. Tous les jours. Pas un jour par semaine. Pas à la réunion du mardi soir. Tous les jours. Devant l'Éternel. Le Dieu d'Israël est le Dieu aujourd'hui de toute l'Église internationale. Alors on dira, oui, mais ces gens, c'était quand même des gens particuliers, Élie, Élisée, les prophètes, certains hommes de Dieu, Néhémie, tout ça, les apôtres, c'était quand même des gens particuliers, ils avaient quand même des dons extraordinaires. Il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas, la plupart des prophètes, non, on ne nous raconte pas qu'ils ont fait des guérisons, à part Ésaïe, une fois ou deux. Mais c'est tout. Les autres, ils ont pas fait ça. Ils ont brillé par d'autres choses. Oui, écoutez, c'est vrai. Mais attention, les prophètes, même comme Élie, comme Élisée, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Vous allez dire, mais si, quand même. Non, pas au sens du Nouveau Testament. Ils avaient, on peut dire, l'Esprit. Le Saint-Esprit était à côté d'eux, oui. On pourrait dire qu'il était sur eux, oui. Ils étaient sous l'onction, ça c'est vrai. Mais ce n'était pas la mesure qu'on a aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance. Nous avons une mesure beaucoup plus précieuse. Pourquoi ? Et parce que tant que Jésus n'avait pas accompli tout le nécessaire pour enlever le péché du monde, tant que Jésus n'avait pas pris toute la malédiction qui marque un monde déchu à cause du péché, tant qu'il n'avait pas fait ce travail, jusqu'à la mort et à la mort de la croix, et qu'il était descendu au séjour des morts pour y faire connaître aussi la victoire. et qu'il n'était pas ressuscité, historiquement, corporellement, pour toujours. Parce qu'il y a eu d'autres résurrections, mais ils sont morts une deuxième fois. Pas Jésus. Jésus n'est pas mort une deuxième fois, il est vivant pour toujours. Donc c'est une autre sorte de résurrection. Eh bien, tant que cette chose-là n'était pas accomplie, le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné. Le Saint-Esprit est donné à partir de là, parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans des gens qui n'ont pas été complètement lavés et purifiés par le sang du Fils de Dieu, par cette justice gratuite qu'il nous accorde. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un... Même des gens pieux, comme les prophètes étaient des gens pieux, en tout cas les vrais prophètes. Mais maintenant, nous avons reçu, quand nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ézéchiel l'avait quand même bien dit, il avait dit, il viendra un temps où je vous purifierai d'une eau pure. Ça veut dire, pour nous maintenant, je vous purifierai par le sang sacrificiel du Fils de Dieu. Et vous, je changerai votre cœur, j'enlèverai ce cœur de pierre, je mettrai un cœur malléable, un cœur enseignable, ouvert. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Eh bien, ça, c'est fait maintenant. Et l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit, « Vous qui êtes devenus des fils de Dieu, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption. Nous l'avons. » Alors, vous allez dire, « Oui, mais on l'a, mais c'est quand même une mesure faible. » Bon, non, la mesure, elle n'est pas faible. C'est nous qui la limitons. Il n'y a aucune raison de penser que la mesure que Dieu nous donne par la nouvelle naissance, c'est une mesure faible. Moi-même, des fois, je suis tenté de dire ça. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que la chair est faible que l'esprit baisse la puissance. L'Esprit Saint ne change pas, ne varie pas d'intensité parce que nous sommes encore dans une condition charnelle. Les prophètes aussi étaient dans une condition charnelle. Jésus aussi était dans une condition charnelle. Bon, il n'avait pas péché, mais il était dans une condition charnelle. Les apôtres aussi. Et comme le dit Jésus, celui qui a reçu l'Esprit de la Nouvelle Alliance, il est plus grand que qui ? Que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était pourtant le plus grand, d'après Jésus, des fils des hommes. Il y en a eu d'autres qui sont grands, Abraham, Moïse, bon d'accord, etc. Mais Jean-Baptiste est déclaré le plus grand parce qu'il est le portier, il est celui qui ouvre la porte à celui qui devait venir, le Messie. C'est lui qui a préparé le terrain, c'est lui qui a donné même sa vie parce qu'il a osé compromettre la parole, se compromettre lui-même devant Hérode Antipas au point qu'il s'est fait mettre à mort. Il n'a pas craint pour sa vie. Enfin, comme le dit l'Apocalypse, chapitre 12, il n'a pas craint. Ils se sont compromis. Bon, et nous, qu'est-ce qui nous empêcherait finalement de vivre comme ça ? Moi, je crois que le Seigneur, on est dans une époque où le Seigneur veut nous rendre ambitieux. Parce que vous savez, c'est des temps, on est en train de vivre des temps. Moi, j'ai quand même un certain recul, je me suis converti en 53, donc je vois un petit peu le recul. On est dans des temps depuis longtemps, d'un côté, on dira, c'est vrai que la chrétienté traditionnelle, elle est morte en 14-18. Là, on peut dire, dans la Première Guerre mondiale, la chrétienté européenne, qui avait été toujours basée sur un pouvoir politique qui assurait un encadrement soi-disant chrétien, un peu, oui, parce que l'Église était quand même là, mais toute cette chose-là, on peut dire, à la guerre de 14-18, c'est écroulé. Parce que là, il y a eu des millions de chrétiens qui ont assassiné, qui ont tué des millions de chrétiens. Je ne veux pas juger ceux qui étaient là, on les obligeait à aller, je ne les juge pas. Et puis, ils ont payé un prix terrible. Mais ça a été la fin de ce qu'on pouvait appeler autrefois la chrétienté qui avait duré depuis l'empereur Constantin jusqu'à nos jours. Et puis, ça a duré encore, les débris ont duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on peut dire, c'est fini. Il n'y a plus de chrétienté, il n'y a qu'un peuple réellement de Dieu, oui, qui vit avec l'esprit du Messie. Donc l'état de l'Église, elle a l'air faible parce qu'il y a eu une forte déchristianisation, surtout en Europe, par contre, pas dans les autres parties du monde, mais en Europe, il y a une forte déchristianisation. Mais ceux qui sont restés chrétiens sont plus, à mon avis, consacrés et plus sérieux avec le Seigneur, souvent, que les gens d'autrefois. Donc, ne désespérons pas. Ne disons pas, oh, c'est fini, c'est... il n'y a plus de force, l'Église est en diminution, les temples sont vides. Non, disons au contraire, le Seigneur est en train de lever une nouvelle génération. Mais quand je dis nouvelle génération, ça peut être des gens âgés. Hein, c'est pas les outres neuves, elles peuvent les vieilles outres, elles peuvent se renouveler. Il y a des techniques pour les renouveler. Ce qui compte, c'est le vin nouveau. Hein. C'est que le vin nouveau soit contenu et qu'il ne fasse pas péter les vieilles outres. Alors, donc voilà, ce qui se passe pour ces prophètes, nous pouvons le vivre. Hein. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste et que les grands prophètes qui ont été là. Alors, ça c'est la première clé, se tenir devant le Seigneur, prendre le temps nécessaire pour nous se tenir devant le Seigneur dès le matin. On ne peut pas penser à ça tout le temps, il y a le travail, on doit travailler, on a des contraintes. Mais si on prend des temps concentrés, le matin ou certains jours de la semaine, par exemple le week-end, on a quand même plus de temps, ou pendant les vacances, on prend des temps un petit peu sabbatiques, où on se consacre, je crois qu'alors le reste fait de nous des hommes de Dieu, nous pouvons vivre ça et nous devons, je crois, progresser. Et puis pas seulement l'Esprit qui est en nous, parce qu'il est en nous, mais aussi la dimension de la Pentecôte. Hein. Il y a deux dimensions du Saint-Esprit. Il y a la dimension de l'Esprit en nous qui nous est donnée dès notre conversion, sans qu'on ait cherché, c'est donné, c'est gratuit, il est là, et nous devons simplement développer cet esprit qui est là. Mais il y a aussi la dimension de la Pentecôte, c'est-à-dire la dimension de l'Esprit qui veut nous qualifier pour le témoignage au dehors. Et ça, c'est l'Esprit qui est sur nous. Si vous regardez dans la Bible, hein, surtout dans Luc, dans Ézéchiel aussi, on trouve ça, dans le livre des Juges aussi, il y a une distinction entre l'Esprit en nous et l'Esprit qui est sur nous, qui nous oint d'une capacité pour atteindre le monde. Et puis alors, j'en arrive maintenant à la deuxième clé. Je regarde si j'oublie pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on remarque avec ce prophète? Qu'est-ce qu'il dit, Élisée, quand il est confronté à cette veuve qui ne peut plus payer ses dettes? Et puis on ne met pas en pratique la loi de Moïse, qui disait tous les 7 ans, si quelqu'un ne peut pas payer ses dettes, vous les lui remettez intégralement. Il ne peut plus les payer, vous les remettez. Vous allez dire, il y a des gens qui vont abuser. Ils avaient trouvé des combines pour éviter les abus, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'il dit, Élisée, à cette femme? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est la deuxième clé. Et ça nous fait peur de poser cette question, même mentalement. Hein, parce qu'on se dit, si je pose cette question, ouf, je vais donner le petit doigt, ils vont me prendre jusqu'ici. Hein. Moi, j'avoue, des fois, ça me fait peur. Hein. J'ai la compassion de beaucoup de gens. Je suis venu en aide avec ma femme et d'autres, à beaucoup de gens. Mais il y a des fois où on se dit, oh là là, on préfère rester dans la zone de confort. Hein. Pour ne pas être quand même trop dérangé, les gens vont nous pomper. Mais ça, c'est un manque de foi, parce que le Seigneur, il a les ressources. Donc, je ne dis pas qu'il faut répondre à tous les appels. Il y a des pièges, des fois, de l'ennemi. Il faut savoir distinguer si c'est l'ennemi qui nous glisse une peau de banane et puis la demande, il ne faut pas lui donner suite, parce qu'il y a des abuseurs. Le Saint-Esprit peut nous éclairer là-dessus, mais il ne faut pas le dire trop vite. Ça serait trop facile de dire, oh, c'est tous des abuseurs. Non, non, non. Que puis-je faire pour toi? Et Élisée ne sait pas quelle est la solution. Il ne sait pas, mais il dit, que puis-je faire pour toi? Et puis cette femme dit, ben voilà, ils vont prendre mes enfants parce que le créancier ne me fait pas de cadeau. Et quand on ne pouvait pas payer des dettes à ce moment-là, la solution c'était quoi? Eh bien, je prends tes enfants comme esclaves, comme ça, d'accord, c'est comme si tu avais payé les dettes, mais tes enfants, ils seront mes esclaves. Terrible! Quand vous aimez vos enfants, c'est terrible de savoir qu'ils vont être les esclaves d'un maître ou d'une maîtresse qui peut être cruel, qui peut être injuste et tout ça. Elle est désespérée, cette femme. Elle s'adresse à Élisée, parce que c'est le maître de cette école prophétique. Elle dit, voilà, qu'est-ce que... Je ne sais pas, quelle est la solution? Et puis on imagine qu'Élisée, qui est toujours en contact avec le Seigneur, il reçoit une pensée qui lui vient probablement comme ça. Il dit, mais au fait, et ça c'est un principe important, il dit, mais au fait, t'as quoi à disposition? T'as pas rien, t'as peut-être quelque chose. Et la plupart des gens, même qui font une dépression, il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien du tout. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose à disposition. Pas forcément en argent, quoique on en a toujours un petit peu. En France, vous avez toujours un peu d'argent. Il y a la Sécu qui est tellement généreuse avec tout le monde, vous avez, il n'y a personne qui n'a rien du tout. Mais on a peut-être des talents, on a peut-être des choses à faire valoir, qui sont là, que Dieu nous a donné. Et puis dans notre dépression ou dans notre esprit d'infériorité, on dit, ouais, mais ça c'est rien, non, mais ça c'était avant que j'étais jeune, maintenant c'est fini, et puis ça me tombe dessus, et puis j'y peux, et puis voilà, on est accablé. Mais t'as quand même quelque chose, alors donne-le, mets-le à disposition. T'as un peu d'huile, au fond, il te reste plus que ça, puis après tu vas mourir. Hein, Élie aussi, il avait une veuve avec qui lui disait, j'ai encore un petit peu de farine, mais, et puis un petit peu d'huile, on va faire une galette, puis après on va mourir, mon fils et moi. Non, donne-le. Hein? Elle aurait pu dire, mais quel culot, j'ai rien du tout, puis il me dit de donner pour lui d'abord. Hein, Élie dit pour moi d'abord. Mais il le met à l'épreuve, il étire la foi de cette femme, il l'étire, il veut la faire grandir. Et puis cette femme-là, elle est fantastique, parce qu'elle joue le jeu, elle ne fait pas d'histoire. Elle fait ce que le prophète lui dit. Tu vas chercher, tu vas dire à tes enfants, allez chercher des récipients. Les enfants sont mis dans le coup. Ensuite, ces enfants, ils vont dans le quartier, ils vont vers les voisins. Ils disent, vous n'avez pas des récipients? Vous avez un récipient? Oui, merci. Vous pouvez me donner un récipient? Oui, merci. Et le quartier est mis en mouvement. C'est génial. Hein? Des fois, on hésiterait à demander au monde. Moi, je serais un peu de ceux-là. J'hésiterais à demander au monde quoi que ce soit. J'aurais cette tendance-là. Mais ce n'est pas juste. C'est juste de demander au monde des ressources et de mettre les gens dans le coup. Parce que ça suscite un climat de disposition à la foi. Peut-être que ces gens qui ont prêté des vases et qui voient qu'apprennent qu'il y a eu une multiplication, mais forcément ils vont se poser des questions en disant, mais moi j'ai prêté ce vase-là à cette femme, mais alors Dieu, il fait quelque chose finalement. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas juste des trucs là, pour les grandes cérémonies annuelles, à Pâques, et puis à Pentecôte, et puis à la fête des cabanes, c'est plus. Et ça crée un climat de foi. Ça c'est la deuxième clé. Que puis-je faire pour toi? C'est intéressant parce que l'autre femme, elle est très différente. D'abord, elle est distinguée, il y a de la culture, elle a des relations, au lieu, tout, elle a besoin finalement de rien quand on lui demande qu'est-ce qu'elle peut faire cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, hein? Ben, elle répond, moi, non, ça va, mais en fait, ça n'allait pas tellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça, c'était une souffrance cachée. Il y a des tas de gens qui ont l'air bien, costume, cravate, diplôme, une place dans la société, puis ils ont une souffrance cachée. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant, ça voulait dire quoi? En Israël, ça voulait dire on n'est pas dans le processus qui va engendrer des générations qui vont mener au Messie. Chaque femme d'Israël, à partir d'une certaine époque en tout cas, s'attendait à ce qu'elle puisse donner naissance au Messie. Et bien cette femme, elle dit, c'est cuit. Elle s'était tellement habituée à cet état de stérilité, que quand Élisée, là aussi, parce qu'il reçoit une inspiration et parce qu'il met sa foi dans le Seigneur, lui annonce qu'elle aura un enfant l'année suivante, ben, ce n'était pas garanti. Hein. Cette femme, tout ce qu'elle trouve à dire, elle était sympa, elle avait fait une petite chambre pour Élisée, mais tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Homme de Dieu, ne te moque pas de ta servante ». J'ai jamais eu d'enfant. On a déjà fait des efforts. On ne sait pas, ils avaient peut-être même prié, on ne sait pas, hein, mais ça n'a rien donné. Ne te moque pas. Élisée ne se vexe pas. Il ne lui dit pas, tu es une incrédule, eh bien tu n'auras pas. Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris l'initiative. Elle n'a rien demandé, c'est lui qui a proposé. Et quand on propose, il faut aller jusqu'au bout. Et il dit, dans une année, je reviendrai, tu auras un fils dans tes bras. Et ça s'est produit. C'est extraordinaire. Bon, ça ne sera pas fini, hein? Parce que le fils, au bout de quelques années, il meurt. Et puis on pourrait tous se dire, oh, oui, mais alors ces histoires, on s'est persuadé que c'est une coïncidence, un hasard. Des fois, il y a des gens, tout d'un coup, ils ont un enfant sur le tard. Ça peut arriver, ce n'est pas forcément un miracle, etc. Et puis voilà. Et puis on se lamente, et puis on laisse tomber. Non, Élisée, qui ne savait rien quand il apprend que cet enfant est mort, il est saisi, là aussi, par la parole de Dieu. Et il dit, si le Seigneur a donné d'une manière prodigieuse un enfant à cette femme et à son mari, ce n'est pas pour les leur enlever quelques années après. Ça ne tient pas debout. Ce n'est pas possible, Dieu n'est pas comme ça. Et c'est des gens novateurs. Ils ont révélé des aspects de Dieu qu'on a besoin d'entendre. Moi, j'avais une tendance plutôt à être un peu des fois pessimiste dans des trucs comme ça, de dire Dieu est souverain, il a pas cru bon de donner suite. Hein. J'aurais une petite tendance que j'ai dû vaincre au fil des années d'être un peu comme ça. Mais non. Un temps, je disais, mais on ne peut pas toujours prendre ces paroles très positives qu'on trouve dans la Bible, toujours pour nous, et puis les paroles négatives, on ne les prend pas. Alors les paroles négatives, si c'est des jugements, il faut les prendre, parce que Dieu a le droit de nous juger. Mais c'est vrai que non, il y a des paroles négatives, c'est fini, avec la nouvelle alliance, c'est fini, il n'y a plus besoin de les prendre. On peut prendre les promesses, on peut prendre les paroles positives, parce que c'est le nouveau régime, le régime de la grâce. C'est que nous sommes dans le positif, nous sommes dans l'amour de Dieu. Dieu n'est pas fâché foncièrement contre nous. Oui, il n'aime pas qu'on retombe dans les péchés, ça c'est vrai. Et puis il va peut-être nous reprendre, mais il nous aime toujours, il ne renonce pas à son amour, il est de bonne humeur, comme disait quelqu'un. Dieu est de bonne humeur. Plus que nous croyons, et il nous aime plus que nous croyons, malgré nos fautes. Alors ça ne justifie pas nos fautes, ça n'excuse pas nos fautes. Non, il faut s'en humilier, mais il ne faut pas rester trop longtemps dessus. Une fois qu'on a confessé, c'est fini, c'est passé. On passe à autre chose, ce que le Seigneur va faire maintenant, à l'avenir. C'est ça l'important. Alors ça, c'est la deuxième clé. Hein. Que puis-je faire pour toi? Puis alors, il y a une troisième clé. C'est la dernière sur laquelle je veux insister, c'est qu'à un moment donné, ben voilà, il s'agit de mettre sa foi en action. Parce que ouais, on peut avoir plein de connaissances sur ce qu'il y a Dieu, sur sa puissance, sur le fait qu'il intervient. On connaît même des gens aujourd'hui qui vivent des choses, puis pas nous, où on va dire « Ah, dans les pays du tiers-monde, il y a des miracles. Chez nous, en Europe, il n'y en a plus, parce qu'on est tellement intelligent qu'on explique tout. Il n'y a plus besoin de miracles, on explique tout. Mais on ne fait rien. Et le Seigneur ne peut pas agir quand on se croit tellement intelligent qu'on explique tout et qu'on prétend que notre raison va tout pouvoir contrôler. Non. Le Seigneur va faire des choses et il faut simplement que nous apprenions à mettre notre foi en action. On a entendu hier avec le témoignage du frère Ribagnac, avec le secours que le Seigneur lui a donné dans une période difficile où il avait absolument besoin de s'en sortir financièrement. Mais c'est vrai que moi j'ai remarqué aussi, chaque fois que je mets ma foi en action, je vois une bénédiction qui vient. Peut-être pas tout de suite, des fois il faut persévérer, hein, des mois où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais persévérons, gardons la foi et nous verrons finalement s'accomplir les choses que le Seigneur a promises. Alors gardons ces trois clés. Un, moi j'appellerais ça la communion, l'Éternel devant qui je me tiens. Je veux aimer le Seigneur, et pas moi tout seul avec les autres aussi, mais pas seulement avec les autres aussi quand je suis seul dans ma chambre. Quelles que soient les conditions, je vais aimer, t'aimer Seigneur, vivre avec toi, t'écouter ta parole, me nourrir de ta parole, lire la Bible beaucoup, pas pour avoir une grosse tête biblique, mais parce que j'apprends comment tu fais, j'apprends tes voies. Et en Jésus-Christ, c'est la meilleure théologie. Jésus, c'est la meilleure théologie. Comprendre la Bible à la lumière de Jésus-Christ. C'est comme ça que cette écriture qui pourrait rester une lettre sans force devient une puissance. Et la prière avec les autres, tout ça. Et puis la deuxième chose, que puis-je faire pour toi? Seigneur, comment est-ce que les gens que je vais voir aujourd'hui dans ma journée, des voisins d'immeuble, des collègues de travail, ma famille, comment est-ce que je vais être ton témoin, je suis la présence de Christ auprès d'eux, je suis une extension, comme on dit dans les entreprises, de Jésus parmi eux. Comment, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, pour leur rendre la vie plus belle? En langage laïque, il y a un psychiatre juif qui résumait ça comme ça. Il n'était pas spécialement croyant, mais il résumait en disant, en se posant des questions sur les gens de notre entourage, quel est son besoin fondamental? De quoi cette personne a-t-elle fondamentalement besoin? Qui n'est pas toujours ce que les gens disent, mais ce qui est dans leur cœur, et que souvent ils ne le disent pas, des fois ils le disent. Mais le Seigneur peut nous le révéler. Et puis aussi, la deuxième question, comment puis-je rendre à cette personne la vie plus belle? Ça revient au même, sauf que nous, on le rattache à Jésus-Christ, qui est évidemment extrêmement important. Hein. On ne va pas s'inspirer juste d'Élisée. Élisée et Élie, c'est des exemples à imiter, mais c'est pas la source. Nous, on a bien mieux. On a directement le Saint-Esprit qui nous vient du ciel. Pour que les gens voient le ciel qui vient sur la terre. Moi, j'aspire à ça, parce que pas uniquement sous la forme de miracles et de prodiges, c'est pas forcément spectaculaire. Oui, ça devrait l'être des fois, souvent même. Mais ça peut être sous la forme surtout d'une sorte de force de conviction qui va toucher les gens et qui va les persuader de se tourner vers le Seigneur complètement, de livrer leur vie complètement, en sorte que leur vie soit transformée. Ce qu'il faut, c'est des vies transformées. Des vies transformées, à commencer par moi. D'accord? Ça va? Vous m'avez suivi? Je n'ai pas contrôlé si vous m'avez suivi. Je crois que oui, certains en tout cas, oui. Vous êtes un peu comme en Suisse. Vous êtes un peu plus expressif, mais en Suisse, on écoute, mais on ne dit rien. Alors, je vais prier. On va, ceux qui se disent, oui, moi j'aimerais devenir comme ça. Je connais ces histoires, j'apprends peut-être rien de foncièrement nouveau, mais j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de vivre cette dimension. Et moi, je veux ça. Je veux m'accrocher jusqu'à ce que je vois la réalité. Alors, s'il y en a qui veulent entrer dans ce genre de témoignage, un peu du genre d'Élisée, là, et puis ne vous gênez pas en disant, non, mais je ne peux pas demander quelque chose d'aussi grand qu'Élisée. Non, non. Oui, pourquoi pas? Tant qu'il y a eu des récipients à remplir, lui, il était là. Le jour où il n'y a plus de récipients, ça s'est arrêté. Mais s'il y en avait eu encore, vous croyez que l'huile se serait arrêtée? Non, ça aurait continué. Donc, tant qu'il y a les récipients, tant qu'on offre nos corps, pas seulement nos âmes, hein, nos corps, au Seigneur, on a chanté tout à l'heure qu'on était le temple, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, et bien tant qu'on s'offre, on offre nos corps, le Seigneur, il a les ressources pour remplir. Alors, je vais prier, aussi spécialement pour ceux qui sont peut-être un peu dans l'incrédulité, on peut être facilement là. Et puis, ceux qui voudraient faire une démarche comme ça, vous pouvez vous lever à votre place. Puis après, peut-être après la Sainte Cène, à la fin du culte, on pourrait se retrouver pour prier avec ceux-là. D'accord? Alors, pendant que je prie, spontanément, vous pouvez vous lever. Ô Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu, parce que ta parole est magnifique. Et nous rétrécissons tellement, Seigneur, moi aussi, je me mets avec les pécheurs, nous rétrécissons tellement. Tes promesses, sous prétexte qu'elles tardent, sous prétexte que c'est plus l'époque, sous prétexte que les temps sont trop durs, sous prétexte que toutes sortes d'histoires. Et nous tardons à venir vers toi, simplement comme des petits enfants qui savent que tu as tout le nécessaire, mais qu'on a de la peine à le prendre. Et je te prie, Seigneur, pendant que nous sommes ici maintenant, de permettre à tous ceux qui veulent faire cet acte de foi d'ouvrir tout leur esprit, tout leur cœur, toute leur âme, toute leur pensée, tout leur corps, toute leur relation à toi. Et prendre l'engagement d'être beaucoup plus avec toi tout le temps. Non pas dans un sens mystico-évaporé, mais dans un sens réel, dans un sens concret. Ô Seigneur, merci. Et je te prie que tu puisses, sans trop tarder, Seigneur, nous donner la foi en action qui va nous permettre de voir des choses comme ça, de prendre au sérieux les gens autour de nous, même s'ils ne vont pas forcément se convertir. Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est d'être des témoins. Seigneur, donne-nous cette audace dans un monde incrédule et parfois même persécuteur, au moins en parole ou en moquerie, de ne pas faire attention à ça, mais de faire attention à toi, Seigneur, et d'aimer les gens malgré tout. Et que même s'ils nous disent des choses négatives, nous leur disions, c'est parce que tu ne connais pas celui dont je te parle, mais le jour où tu le connaîtras, tu vas changer de discours. Et le Seigneur peut changer ta vie. Mais déjà ici, parmi nous, Seigneur, je veux prier pour ceux qui sont comme Anne, la mère de Samuel, qui pendant tout un temps était dans la déprime parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était moquée par sa concurrente, l'autre femme. Et un jour, elle a changé d'attitude. Elle a dit, ça suffit comme ça. Elle s'est levée. Elle a dit, maintenant, je vais répandre mon cœur devant le Seigneur. Je vais au tabernacle et je répands mon cœur. Elle l'a fait. Le grand prêtre Élie était là. Il a vu, il a même cru qu'elle était ivre. Mais non. Elle a dit, je réponds mon cœur devant l'Éternel. Et elle a changé de visage dès ce moment-là. Et elle a reçu un fils, comme on n'en fait pas souvent, Samuel, le premier des prophètes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons en toi. Et je te prie pour ceux qui ont de la peine à être debout devant toi, ou qui peut-être disent, moi je ne recommence pas, j'ai eu assez d'appels, je ne me relève pas. Je peux comprendre ça, mais Seigneur, tu connais leur cœur et tu veux les remplir. Tu veux nous relever, tu veux que la France soit visitée de nouveau, non pas par simplement des espoirs mis dans les élus, mais de l'espoir mis en toi, Seigneur. Les élus, c'est une grâce que tu nous fais d'en avoir, mais ils nous trompent souvent, mais toi non, Seigneur. Et tu nous as élus, nous, directement toi, pour que nous soyons dans ce pays de France, mais aussi en Suisse et dans tous les pays d'Europe qui en ont tellement besoin, des gens qui amènent du nouveau. Seigneur, béni sois-tu, qui font la différence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et puis alors, ceux qui voudraient venir après, enfin ça c'est Florian qui va gérer, ou Catherine, et vous viendrez.